Sites et patrimoine. La chronique de Robert Werner, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Renaissance d'un haut lieu de la spiritualité. Paris, où affluent chaque année des millions de touristes pour sa beauté et pour son histoire, conserve relativement peu de vestiges médiévaux. Les urbanisations successives, la Révolution, le vandalisme en sont les causes principales. Il y a, naturellement, la cathédrale Notre-Dame de Paris, construite entre 1163 et 1260 sous l'évêque Maurice de Sully, où, avec l'art gothique, les réalisations parisiennes deviennent exemplaires de l'art français. L'église Saint-Pierre de Montmartre aussi, fondée en 1134. Au haut Moyen-Âge, la tour Clovis, aujourd'hui intégrée au lycée Henri IV, et l'église Saint-Julien-le-Pauvre, même antérieure à l'an 1000, certes très transformée et aujourd'hui dédiée au culte melkite des Grecs catholiques. Remontons encore un peu le temps. À l'époque où Childebert Ier, roi franc du territoire contenant Paris, fils de Clovis et de Clotilde, et qui règne dès la mort de son père en 511, veut une abbaye grandiose pour sa ville. Elle s'appellera Saint-Germain-des-Prés. Celle-ci sera de nombreuses fois restaurée, mais y subsiste, en plus du cœur de l'église et au fond, des vestiges de l'époque romane que les visiteurs connaissent insuffisamment. Quant à la conciergerie dans l'île de la Cité, le palais des premiers rois capétiens avec la Sainte-Chapelle voulue par Saint-Louis, elle possède encore des parties datant du XIVe siècle. Allais-je oublier la tour Jean sans peur, dans le quartier des Arts et Métiers, et la fin du gothique signalée par les églises Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Gervais, Saint-Séverin, Saint-Étienne-du-Mont, et enfin l'hôtel des Abbés de Cluny. Ce bref survol est probablement incomplet. Quand on se promène dans Paris, et qu'on a le temps de se perdre dans l'histoire de la ville, de regarder comme il convient, on ne peut qu'être frappé par l'harmonie des bâtiments, par ces monuments comme autant de souvenirs vivaces du temps passé. Ainsi, nous voici arrivés devant l'objet de cette évocation, l'ancien collège des Bernardins, édifié dans la première moitié du XIIIe siècle, à l'époque du règne de Saint-Louis. Situé au 18 rue de Poissy, une petite rue qui donne dans le faubourg Saint-Germain en direction de l'Institut du monde arabe, l'ancien collège des Bernardins a pendant longtemps été un haut lieu de l'enseignement de la théologie. En partie défiguré au cours du XIXe siècle, le site abritait encore, il y a quelques années, une caserne des pompiers installée en ce lieu depuis la fin du règne de Louis-Philippe. Il s'agit en vérité d'un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale, longtemps ignoré et heureusement redécouvert grâce, principalement, à la volonté de Mgr Lustiger, alors archevêque de Paris. C'est Étienne de Lexington, un moine d'origine anglaise, abbé de Clairvaux, qui crée en 1245 le collège Saint-Bernard, bientôt désigné comme collège des Bernardins, soutenu par le pape Innocent IV. Dédié à la spiritualité, il est vite célèbre et reconnu dans toute l'Europe moyenâgeuse, d'où l'on vient étudier les textes savants des religieux de renom. On y enseignait chaque jour la théologie, de 6h du matin à 9h du soir, et les élèves devaient argumenter en latin. La nécessité de faire bénéficier les moines de l'enseignement universitaire à Paris, alors capitale intellectuelle de l'Europe, et le retard pris par rapport aux dominicains et aux franciscains ont poussé les cisterciens à engager la construction du collège des Bernardins installé au Clos du Chardonnay. Il devait être le lieu d'étude et de recherche au cœur de la pensée chrétienne. C'est alors, dans la première moitié du XIIIe siècle, qu'est construit le principal bâtiment qui a survécu. À l'instar du collège parisien qui veut promouvoir l'étude parmi ses moines, d'autres collèges cisterciens sont créés. Le chapitre général confirmant la prééminence du collège des Bernardins sur tous les autres collèges de l'ordre. Au XIIe siècle, une révolution intellectuelle secoue l'Europe. Les monastères, jusqu'alors principaux centres intellectuels, cèdent de peu à peu le pas aux universités nouvellement créées dans les grandes villes, Bologne, Paris, Oxford, Cambridge, Heidelberg. Dans une bulle de 1245, le pape encourage vivement les cisterciens à aller faire des études à Paris pour y étudier la théologie et transmettre ensuite leurs enseignements à leurs confrères. Prévu à l'origine pour accueillir une vingtaine d'étudiants, le collège formera, entre le XIIIe et le XVe siècle, plusieurs milliers de jeunes moines cisterciens, l'élite de leur ordre venant du nord de la France, de Flandre, d'Allemagne et d'Europe centrale. Les registres de la faculté de théologie de Paris témoignent de la vitalité de ce haut lieu qui joue un rôle encore plus important lorsqu'il devient le quartier général de l'étroite observance, réforme encouragée par le cardinal de La Rochefoucauld et confirmée par Richelieu, devenant lui-même abbé de Citeaux en 1635. La réputation du collège y gagna et le nombre des élèves culmina. Ils joueront un rôle illustre dans l'histoire de l'Église médiévale. Jacques Fournier, un ancien étudiant du collège, reçu docteur en théologie en 1314, sera plus connu sous le nom de Benoît XII, pape en Avignon, de 1334 à 1342. Son lointain successeur, le pape actuel, Benoît XVI, s'est d'ailleurs rendu au collège des Bernardins dès l'achèvement de sa restauration en rappelant le prestigieux passé de cette institution du quartier latin. Il est fondé 30 ans avant la Sorbonne, en 1257, sous l'autorité d'un autre théologien, Robert de Sorbon. En ce temps-là, l'essor de la ville de Paris, fortifiée depuis l'avènement des Capétiens, ne faiblit pas encore. C'est le temps où les marchands de l'eau ont tout pouvoir sur le commerce fluvial. Quelques décennies plus tôt, Paris, sous Louis VI le Gros, voit la construction des premières grandes halles, de Notre-Dame de Paris et du tracé des grandes artères qui subsistent en partie aujourd'hui. Philippe Auguste, le grand-père de Saint-Louis, ordonne l'érection d'une seconde enceinte alors que le prévôt des marchands tout-puissants devient le véritable maire de Paris. Mais revenons au collège et descendons un instant au sous-sol, au cellier, dont on dit qu'il est le plus grand de Paris, peut-être le plus beau dans toute l'ampleur de ses trois nefs. Le sol de béton ciré, très sobre, évoque la terre battue qui le constituait à l'origine et aujourd'hui, étudiants, professeurs et chercheurs ont la possibilité de travailler dans l'ancien cellier. Son déblaiement et les travaux de terrassement ont occasionné de multiples surprises. Parmi ces dernières, la découverte d'un affluent de la Bièvre. Elle permit de comprendre pourquoi, dès sa construction, le collège des Bernardins, reposant sur un sol alluvionnaire, s'affaissait sous son propre poids. D'ailleurs, rapidement à cette époque, ce grand cellier sera comblé à mi-hauteur pour stabiliser l'ensemble, ce qui n'empêcha pas le bâtiment de continuer à bouger, affaiblissant les piliers qui supportaient la voûte. Une situation qui prit fin avec le renforcement des fondations et la restauration complète du bâtiment intervenue ces dernières années. Notons qu'à l'époque du projet de réhabilitation, la reprise des Bernardins par le diocèse fut approuvée à l'unanimité par le Conseil de Paris. Le bâtiment jugé d'intérêt national menaçait ruine si une opération d'envergure n'était pas menée. Or, son ouverture au public dans des conditions satisfaisantes exigeait des aménagements importants qui n'entraient pas dans les attributions des Monuments de France. Un double chantier fut entrepris conjointement en 2004 par l'architecte en chef des monuments historiques, M. Hervé Baptiste, pour la restauration extérieure et par le cabinet de l'architecte Jean-Michel Villemotte pour l'aménagement intérieur. Une convention est signée entre la ville, l'État, la région et l'Association diocésaine de Paris avec le concours des services du ministère de la Culture afin de financer les travaux sur les 4500 m² de la future école cathédrale, comprenant des salles de classe, un auditorium sous le toit, pour des concerts, aussi des colloques, des conférences et des expositions. Grâce à la restauration de l'ancien collège des Bernardins, les piliers de la galerie retrouveront après creusement leur hauteur originelle. Les occupants successifs ont fragilisé les étages supérieurs en modifiant des ouvertures au gré des réaménagements, ce qui posa plusieurs problèmes, et entre autres celui-ci. En effet, comment consolider le bâtiment de manière à satisfaire les exigences en matière d'accueil du public et comment restituer la vaste toiture en accord avec les monuments historiques et le budget de restauration qui s'élève à 50 millions d'euros. Des centaines de micro-pieux, enfouis à une profondeur de 15 à 25 mètres, viennent soutenir de manière invisible les murs périphériques et les piliers. Ceux-ci reçoivent un cerclage métallique pour les consolider. Une telle assise permet de stabiliser les voûtes à l'aide de vérins identiques à ceux utilisés pour le tablier du viaduc de Millau. La situation critique du collège réclamait des solutions inédites. La restitution du toit a été réalisée dans ses dimensions médiévales par une charpente métallique. Sur cette charpente, très vaste, une couverture de tuiles plates, artisanales, confère un aspect ancien à la toiture, pas moins de 10 000 tuiles de 7 nuances différentes. Pendant ce temps, les terrassiers ont dégagé une pierre tombale datée de 1306, celle d'un moine cistercien prénommé Günther, originaire de Thuringe. Sa présence atteste du rayonnement européen du collège des Bernardins à son origine. Situé non loin de l'enceinte Philippe-Auguste, le bâtiment est à présent magnifiquement embelli. Il est loin, le temps où, sous la Révolution, vendu comme bien national, il fut défiguré et ensanglanté par les sans-culottes qui massacrèrent les derniers prêtres de la paroisse avant que le cloître ne devienne le bureau du receveur des domaines. Ce dernier y gérait les innombrables exigences et doléances reçues à longueur de journée. Devenu prison pour les galériens, il sera relégué comme entrepôt. Le grand jardin sera même cédé à une association de marchands de bestiaux qui en fera un marché couvert pour les veaux. Enfin, le collège, autrefois centre de la spiritualité, se verra transformé en caserne des pompiers. Une chance finalement, car le bâtiment est occupé et entretenu jusqu'à la veille du chantier. Cet admirable monument, dont l'église fut malheureusement démolie en grande partie par le tracé de la rue Pontoise et ses ruines rasées en 1859 lors du percement du boulevard Saint-Germain, était resté longtemps méconnu en dépit de son classement en 1887. Y entrer est un vrai bonheur. Les éclairages incorporés au sol pour ne pas altérer la pureté des voûtes fait naître, en effet, une ambiance apaisante en ce lieu qui renoue avec sa vocation initiale. Oui, l'ancien collège des Bernardins retrouve aujourd'hui son éclat originel.